VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Sommet de la CEDEAO aujourd'hui à Dakar. Les opposants gambiens exhortent les pays de l'organisation à prendre des sanctions contre la Gambie face à la répression qui s'y est aggravée, selon un rapport publié par Amnesty International. Maëlys Eagle.
Ce rapport a été rendu public hier lors d'une conférence de presse avec les opposants gambiens à Dakar. Amnesty dépeint un tableau sombre du pays de Yahya Jammeh. 51 personnes sont en cours de jugement. Au moins 36 personnes ont été arrêtées sans inculpation depuis une manifestation pacifique le 9 mai 2016. Et enfin, le syndicaliste Solo Sandingue est mort en détention. L'ancien ministre et opposant Amadou Jané a qualifié la situation de tragique. Lorsque la case de votre voisin brûle, si vous avez de l'eau, allez éteindre le feu, a renchéri l'activiste gambienne Fatoumata Tambanyang. Elle a appelé à des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs de Jamé et de ses proches, ou les empêcher de voyager. Amnesty International, pour sa part, appelle la CEDEAO à accroître la pression sur Banjul et suggère la possibilité de suspendre la Gambie si aucune avancée n'est réalisée sur le terrain des droits de l'homme. Dakar doit abriter ce vendredi un sommet de la CEDEAO.
Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger, NDA. Et le président Muhammadu Buhari a finalement annulé sa première visite dans la région prévue hier. Qui sont ces nouveaux rebelles sudistes dans le pays? Élément de réponse avec le professeur Asho Akakuru de l'Université de Port-Harcourt au micro de Tatiana Mosso.
On croit qu'il s'agit de ces groupes sous qui ont existé depuis fort longtemps dans le delta du Nigeria, qui revendiquent, je ne sais pas, parfois un état haut, parfois plus bas de pétrole, etc., et qui veulent le contrôle de leurs ressources. Donc c'est un peu confus puisqu'il y a quand même des tendances un peu différentes.
Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il rappelle en tout cas les rebelles du Mende. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces groupes-là?
Selon ce que l'on dit, on ne sait pas au juste, il est fort possible qu'il y ait de liens entre ce groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème fondamental, c'est la structure du pays. Que certains gens se sentent déniés de ressources de leur région. Ils sont sous-développés, même si parfois ce sous-développement peut bien venir de certains gens de la région qui sont au pouvoir. Mais le fait reste pour la majorité des gens qui pensent qu'il y a quand même une nécessité de restructurer le Nigeria. Le système actuel favorise des gens qui ne produisent pas tellement les ressources du pays.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les revendications des indépendantistes, des séparatistes qui veulent recréer un état du Biafra?
Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu simpliste de penser qu'il y a un lien viscéral entre les deux mouvements qui peuvent à un certain moment se rejoindre. Mais le fait reste que c'est le même problème de structure du Nigeria que par exemple du côté de Biafra, les Igbo, ce sont hors de géopolitique nigérien alors que c'est un groupe ethnique qui est important. Il semble que dans la répartition des biens du pays, ils sont des légers pour compte. Ils ne sont pas préparés à accepter.
Qu'est-ce qui alimente ces rébellions à répétition dans cette zone du pays? Qu'est-ce qui fait que les causes semblent aussi profondes?
Tout le monde sait qu'il y a quand même un déséquilibre dans notre pays. La réalité réside, malgré ce que l'on dit, il faut revoir cette structure. Selon ce que je lis dans les journaux aujourd'hui, les gens trouvaient de côté de Biafra, etc., les discours présidentiels, etc., qu'il y a une approche trop simpliste et militariste. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral puisse mener une guerre contre tous ces gens. Ça sera catastrophique. Ça va détruire notre pays et créer des problèmes sous-régionaux pour le Nigeria.
Le professeur Asho Akakuru de l'Université de Port-Harcourt répondait aux questions de Tatiana Mosso. Crise au Mali, les Nations Unies demandent 2500 soldats et policiers supplémentaires pour renforcer leur mission dans le pays, devenu l'une des plus dangereuses au monde. John Lyndon.
Le Conseil de sécurité doit étudier ce renforcement de la MINUSMA et un allongement de son mandat lors d'un vote prévu le 29 juin. C'est suite à une série d'attaques meurtrières. 12 personnes ont été tuées rien qu'au mois de mai, dont un casque bleu chinois et 3 civils dans une double attaque mardi à Gao. Pour Stéphane Dujarric, porte-parole onusien, le personnel de l'ONU a payé de son sang. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, propose d'ajouter plus de 2000 soldats et 480 policiers à la MINUSMA, qui compte déjà quelque 12 000 hommes. Il demande aussi une force de réaction rapide de 650 soldats, une unité aérienne de 85 personnes et le déploiement de forces spéciales à Tombouctou et à Kidal pour le renseignement et la surveillance. Une équipe spéciale de 30 policiers serait basée à Bamako pour soutenir cet effort.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le M23 dément toute démarche visant à se transformer en parti politique. Le mouvement rebelle a fait une mise au point à ce sujet après une réunion fin mai dernier à Kinshasa avec le gouvernement sous les auspices de la communauté internationale. Les précisions du porte-parole du MV3, Elia Montella, au micro d'Eddie Isango.
Il y a certains ex-membres de l'organisation qui ont quitté l'organisation, qui ont décidé de créer un parti politique. Ils veulent entretenir une confusion en faisant penser que c'est le M23 qui s'est transformé en parti politique. L'ex-camarade Tshokwe et d'autres personnes qui ont introduit une demande d'agrément d'un parti politique, le M23 n'est pas encore à ce stade. Nous avons plusieurs points contenus dans la déclaration de Nairobi qui doivent précéder la demande de la transformation en parti politique. Je vais vous donner les raisons. C'est que nous sommes dans le pays étranger en Ouganda et au Rwanda et que à ce jour, M23 n'est pas à mesure d'organiser le préalable face à ce qui se transforme en parti politique, entre autres la tenue d'un congrès.
Elia Montella, porte-parole du M23, joint à Kampala en Ouganda par Eddie Sango. Afrique du Nord, maintenant Tunisie. Le premier ministre tunisien, Habib Essid, a affirmé aujourd'hui être prêt à démissionner si l'intérêt du pays l'exige. Et ce, après que le président Béji Caïd Essebsi se soit dit favorable à un gouvernement d'union nationale. Le département d'État américain estime que la menace du terrorisme international devient de plus en plus décentralisée avec des groupes comme l'État islamique. Ces derniers étendent leurs tentacules au-delà du Moyen-Orient, y compris en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans le Nord-Caucase, en Russie. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Ces conclusions sont contenues dans le rapport annuel du département d'État américain. Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab continuent de lancer des attaques meurtrières, mais le groupe État islamique, ajoute-t-il, est resté la plus grande menace internationale en 2015, avec une force formidable en Syrie et en Irak. Bien qu'il y ait eu érosion dans certaines forces des djihadistes dans la seconde moitié de cette année, les extrémistes ont réussi à lancer une série d'attaques ailleurs, dans des pays comme la France et la Turquie. Le groupe État islamique a enregistré des gains en Libye et établi des organisations affiliées dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Boko Haram, lit-on dans le rapport, a tué des milliers de personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres dans la région du bassin du lac Tchad. Et Al-Shabaab a lancé des attaques meurtrières en Somalie pour éradiquer les progrès faits par le gouvernement.
Moyen-Orient maintenant, le guide suprême iranien Ali Khamenei a lancé aujourd'hui une virulente diatribe contre ceux qui restent les ennemis de l'Iran, dit-il, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, lors d'un discours à l'occasion du 27e anniversaire de la mort du fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini. Les détails avec Idrissa Sedoudia.
Ali Khamenei a accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs engagements dans l'accord nucléaire conclu avec les puissances du groupe P5+1. Après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire, une grande partie des sanctions internationales ont été levées par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Mais les États-Unis et l'Union européenne maintiennent toujours des sanctions liées au programme balistique de l'Iran, à la situation des droits de l'homme et au soutien à des groupes comme le Hezbollah libanais, qualifié de terroriste par les États-Unis. L'Iran accuse en particulier Washington de ne pas faire le nécessaire pour rassurer les grandes institutions bancaires internationales qui rechignent à faire des affaires avec l'Iran par peur de mesures punitives américaines.
Et pour terminer la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis, des bagarres ont éclaté hier entre pro et anti-Trump en Californie au moment où le futur candidat républicain à la présidentielle tenait un meeting à San José. Des incidents devenus récurrents depuis le début de la campagne du milliardaire américain. La semaine dernière, des dizaines d'opposants au milliardaire avaient été arrêtés à San Diego, également en Californie. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.